71. L'entretien n'a pas été bien long, Harry, remarqua Dorse.
Je sais. Les lieux étaient loin d'être agréables et j'ai estimé que j'en avais appris assez.
Étonnant comme ces contes tendent à l'amplification. L'amplification? Que voulez-vous dire?
Eh bien, les mycogéniens remplissent leur aurora d'humains qui vivaient des siècles et les dalides remplissent leur terre d'une humanité qui aurait vécu des millions d'années. Les uns et les autres parlent d'un robot immortel.
Malgré tout, ça donne à réfléchir.
Avec tous ces millions d'années, il y a de quoi?
À propos, où allons-nous? La mère Rita a dit d'aller dans cette direction, jusqu'à une aire de repos, puis de suivre les panneaux indiquant « Allée centrale » sur notre gauche.
Avions-nous passé une aire de repos à l'allée?
On suit peut-être un autre chemin?
Je ne me souviens pas, mais je ne faisais pas attention à l'itinéraire. J'avais l'œil sur les gens qu'on croisait et...
Sa voix s'éteignit. Devant eux, la galerie s'épanouissait de part et d'autre.
Seldon se souvint.
Ils étaient effectivement passés par là. Il y avait deux matelas crasseux posés au sol de chaque côté. Mais cette fois, à la différence du trajet aller, Dorse n'avait pas besoin de surveiller les passants. Il n'y avait pas un chat. Mais un peu plus loin, sur l'aire de détente, ils avisèrent un groupe d'individus plutôt grands pour des dalites. La moustache avantageuse, leurs biceps nus et musclés luisant sous l'éclairage jaunâtre de la galerie. À l'évidence, ils attendaient les exos. Et presque machinalement, Dorse et Seldon s'immobilisèrent. Une ou deux secondes, la scène demeura figée, puis Seldon regarda hâtivement derrière lui. Deux ou trois individus supplémentaires venaient de faire leur apparition.
Seldon remarqua entre ses dents « Nous sommes pris au piège.
Je n'aurais pas dû vous laisser venir, Dorse.
Au contraire, c'est bien pour ça que je suis ici.
Mais était-il bien utile d'aller voir la mère Rita?
Si on s'en sort, absolument. »
Puis, à voix haute et ferme, Seldon lança.
« Pouvons-nous passer ?»
L'un des hommes s'avança. Il faisait largement le 1m73 de Seldon, mais était plus large d'épaule et bien plus musclé, avec un soupçon d'embonpoint toutefois, nota Seldon.
« Je suis Maron !»
dit-il avec une certaine suffisance, comme si ce nom avait un sens évident.
« Et je suis venu pour vous dire que par ici on n'aime pas beaucoup les exos. » Vous avez voulu venir? Très bien. Mais si vous voulez repartir, va falloir payer.
Parfait.
Combien?
Tout ce que vous avez. Vous autres exos, vous avez des plaques de crédit, non? Vous avez qu'à nous les refiler.
Non.
Pas besoin de dire non. On va les prendre, c'est tout.
Pour les prendre, il faudra me tuer ou me blesser. Et elles ne fonctionneront qu'avec mon empreinte vocale normale.
Pas du tout, maître. Voyez, je suis poli. On peut vous les prendre sans vous faire trop de bobos.
Et pour ça, il en faudra combien des malabars comme vous?
9?
Seldon compta rapidement.
Non, 10. Rien qu'un. Moi.
Sans aide.
Moi seul.
Si vos amis veulent bien s'écarter et nous dégager la place, j'aimerais bien vous voir essayer, Maron.
Vous n'avez pas de couteau, maître, vous en voulez un?
Non. Servez-vous du vôtre pour que le combat soit égal. Je me battrai sans ça.
Maron regarda les autres et remarqua.
Hé! Hey, il se pose là, cet avorton. Même pas l'air d'avoir la trouille. Sympa, le mec. Ça serait une honte de la mocher. Savez quoi, maître? Je vais m'occuper de la fille. Si vous voulez que j'arrête, passez-moi votre plaque de crédit et la sienne, et donnez de la voix pour les activer. Sinon, quand j'en aurai fini avec la nana, et ça peut prendre du temps...
Il rit.
Il faudra que je m'occupe de vous.
Non,
dit Seldon.
Laissez-la. Je vous ai défié en combat égal d'homme à homme, vous avec un couteau, moi sans.
Si vous voulez l'avantage, je veux bien me battre contre deux d'entre vous.
Mais laissez partir la femme.
Arrêtez, Harry,
intervint Dorse.
Si c'est moi qu'il veut,
qu'il vienne me chercher.
Vous restez où vous êtes sans bouger. Vous avez entendu,
dit Maron avec un grand sourire.
Vous restez où vous êtes, Harry, sans bouger. Je crois que la petite dame a envie de moi. Vous deux, faites-le tenir tranquille.
Seldon se retrouva les deux bras pris dans une poigne de fer, tandis qu'il sentait dans son dos la pointe acérée d'un couteau.
« Bouge pas !»
lui cria à l'oreille une voix rauque.
« Et tu peux toujours regarder. La fille va probablement aimer ça, Maron sait y faire. »
« Ne bougez pas, Harry, » répéta Dorse. Elle se tourna pour surveiller attentivement Maron, les deux mains à demi fermées, tout près de sa ceinture. Il approchait d'elle, l'air résolu, tandis qu'elle attendait qu'il fût à bonne portée. Soudain, un brusque mouvement des bras, et Maron se retrouva face à deux lames de bonne taille. Il eut un bref mouvement de recul, puis éclata de rire.
« La petite dame a deux couteaux, des couteaux comme les grands garçons, et moi j'en ai qu'un. Mais cette bonne guerre... »
Sa lame fut rapidement dégainée.
« Ça m'embêterait de devoir la poinçonner, la petite dame, parce que ça risque d'être moins rigolo pour nous deux, mais peut-être que je peux vous les confisquer. »
« Je n'ai pas envie de vous tuer, » lança Dorse. « Je vais faire tout mon possible pour l'éviter. Malgré tout, vos amis en sont témoins. Si jamais je dois vous tuer, ce sera pour protéger mon ami, comme l'honneur m'y oblige. » Maron fit semblant d'être terrifié.
« Oh, je vous en supplie, me tuez pas, ma petite dame !»
Puis il éclata de rire, suivi par les autres Dalits présents. Maron plongea le couteau en avant, bien à côté de la cible. Il essaya une deuxième fois, une troisième, mais Dorse resta immobile, ne cherchant pas à esquiver un coup qui n'était pas vraiment dirigé sur elle. La mine de Maron s'assombrit. Il avait essayé de lui faire peur, mais n'avait réussi qu'à paraître inefficace. Sa quatrième tentative la visa directement, et cette fois, la main gauche de Dorse jaillit et le cueillit avec une force qui lui dévia le bras. Simultanément, la lame qu'elle tenait dans la main droite plongeait, entaillant en diagonale le t-shirt blanc de son adversaire. En dessous, un mince trait sanglant macula la peau hâlée. Maron baissa les yeux, abasourdi, tandis que les témoins laissaient échapper un cri de surprise. Seldon sentit l'étreinte se desserrer légèrement. Ses deux gardiens, pris au dépourvu, se laissaient distraire par un duel qui ne prenait pas la tournure escomptée. Il se raidit. Mais voici que Maron plongeait à nouveau, cette fois en lançant la main gauche vers l'extérieur pour agripper le poing droit de la jeune femme. À nouveau, celle-ci bloqua le coup de sa lame gauche, tandis que, d'un vif mouvement de la droite, elle esquivait la prise de Maron. La main de ce dernier se referma sur la lame, et lorsqu'il l'ouvrit, une ligne sanguinolente lui traversait la paume. Dorse recula d'un bond, et Maron, soudain conscient du sang qui lui coulait sur la poitrine et dans la main, rugit d'une voix étranglée.
« Qu'on me passe un autre couteau !»
Il y eut un moment d'hésitation, puis l'un des spectateurs lui lança son poignard. Maron voulut le saisir, mais Dorse fut plus rapide. Sa lame de droite intercepta le couteau et l'envoya voltiger loin derrière. Seldon sentit faiblir encore la prise sur ses bras. Il les leva soudain en poussant vers l'avant et se retrouva libre. Ses deux ravisseurs se tournèrent avec un cri, mais il eut au fait d'expédier un genou dans le bas-ventre du premier et un coude dans le plexus du second. Tous deux s'effondrèrent. Il s'agenouilla pour récupérer leur couteau et se releva doublement armé, comme Dorse. Contrairement à elle, il ne savait pas manier ses instruments, mais il savait aussi que les Dalits ne pouvaient guère s'en douter. « Contentez-vous de les tenir en respect, Harry. N'attaquez pas encore. Maron, le prochain coup ne sera pas une estafilade. » Écumant de rage, Maron chargea à l'aveuglette en poussant un rugissement incohérent dans l'espoir de renverser son adversaire par la seule vertu de l'énergie cinétique. D'une esquive plongeante, Dorse passa sous son bras droit et lui donna un coup de pied contre la cheville droite. L'homme s'effondra tandis que son couteau volait dans les airs. Alors elle s'agenouilla, lui plaqua une lame derrière la nuque, une autre sur la gorge et dit « Rends-toi ! » Avec un nouveau cri, Maron la frappa d'un bras, la repoussa et se releva tant bien que mal. Il n'était pas encore debout qu'elle était sur lui, et abattant sa lame, lui sectionnait un bout de moustache. Cette fois, il poussa un glapissement de bête à l'agonie, la main plaquée sur le visage. Quand il la retira, le sang coulait. Dorse lui cria.
« Elle ne repoussera plus, Maron. Un morceau de lèvre est parti avec. Tu m'attaques encore et je te transforme en viande froide. »
Elle attendit, mais Maron avait eu son compte. Il recula, titubant et gémissant, laissant derrière lui un sillage sanguinolent. Dorse se tourna vers les autres,
Les deux victimes de Seldon gisaient toujours à terre, désarmées, peu pressées de se relever. Elle se pencha, leur trancha la ceinture avec un de ses couteaux, puis elle entailla le pantalon. « Comme ça, il faudra que vous le teniez pour marcher. » Elle fixa les sept autres encore debout, qui la contemplaient avec une fascination empreinte de terreur. « Lequel d'entre vous a lancé le couteau ?» Silence complet. « Peu importe. Venez un par un ou tous ensemble. Mais maintenant, à chaque coup que je porterai, quelqu'un mourra. » Alors comme un seul homme, les sept voyous firent demi-tour et détalèrent sans demander leur reste. Dorse haussa les sourcils et remarqua « Cette fois au moins, Eumine ne pourra pas me reprocher de n'avoir pas su vous protéger. »«
Je n'arrive pas encore à y croire, » répondit Seldon. « Je ne vous savais pas capable de faire une chose pareille ou de parler de la sorte. »
Dorse se contenta de sourire. « Vous n'êtes pas non plus dénué de talent. On fait une bonne équipe tous les deux. « Tenez, repliez vos lames et mettez les couteaux dans votre sacoche. J'ai l'impression que la nouvelle va se répandre à toute vitesse et que nous allons pouvoir quitter Billy Botton sans craindre d'être molestés. » Elle n'avait pas tort.